VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Chérubin, Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech avec vous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 16 mars 2016. Au sommaire ce soir, Gabi.
Au Nigeria, un attentat suicide fait au moins 22 morts et 35 blessés dans une mosquée de Maïdougouri.
Au Niger, nouveau rebondissement dans l'affaire Hama Amadou. Les autorités décident d'évacuer en France l'opposant candidat à la présidence pour raisons de santé.
Il faut évidemment, pour une maladie chronique, comme l'a dit son médecin, dont souffrait M. Amadou depuis 3 ans, il faut l'évacuer dans un centre spécialisé.
Crise migratoire, près de 2 milliers de personnes secourues au large des côtes libyennes ces dernières 24 heures.
Le président américain nomme un 9e juge à la Cour suprême. Les républicains ont juré de ne considérer aucun candidat avant la fin du mandat de Barack Obama.
La situation qui est difficile pour les républicains, c'est qu'il a écrit des opinions pour la majorité à la Cour d'appel à la District of Columbia et aussi les opinions contre la majorité.
Ne manquez pas les rubriques économie et sport, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, deux femmes déguisées en hommes se sont faites exploser aujourd'hui lors de la prière du matin dans une mosquée de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Un dernier bilan fait état d'au moins 22 morts et 35 blessés. Jacques Aristide.
L'attentat a été perpétré tout ce matin dans le quartier Molaï, à la périphérie de Maïdougouri, cible régulière du groupe nigérian Boko Haram. Le lieu de culte visé a d'ailleurs déjà été le théâtre d'un attentat meurtrier le 15 octobre dernier. Les deux femmes, se faisant donc passer pour des hommes, sont arrivées à la mosquée juste avant les fidèles. L'une d'elles est entrée et s'est mêlée à la foule. Et quand les fidèles se sont levés pour les prières, elle a déclenché ses explosifs d'après un secouriste. Et d'ajouter que la deuxième femme qui attendait à l'extérieur de la mosquée s'est précipitée au milieu des fidèles qui tentaient de fuir et a actionné ses explosifs. Maïdougouri, qui est la capitale de l'état de Borno et où Boko Haram était apparu en 2002 avant de déclencher en 2009 une insurrection qui a fait depuis 17 000 morts, était relativement calme ces derniers mois en raison de mesures sécuritaires et d'une contre-offensive soutenue des autorités l'an dernier.
L'opposant nigérien Hama Amadou, détenu depuis 4 mois et candidat au second tour de la présidentielle, est évacué vers Paris pour les soins médicaux. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
Hama Amadou a été transféré par hélicoptère de sa prison de Filingué à Niamey, puis un avion médicalisé l'a emmené à Paris. Lundi, son médecin, Dr Haruna Yakuba, avait déclaré qu'il avait été hospitalisé après l'aggravation de son état de santé. Hama a reçu les premiers soins dans une salle aménagée à l'hôpital de Filingué, avait indiqué de son côté Maru Amadou, ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement. Ce dernier a précisé qu'une équipe de spécialistes dépêchés à Filingué a établi que l'opposant souffre de fatigue générale. L'opposition nigérienne réclamait sa libération pour qu'il puisse battre campagne face au président sortant Mahamadou Issoufou au second tour de la présidentielle le 20 mars. La cour d'appel de Niamey a examiné lundi une demande de liberté provisoire pour l'opposant et rendra une décision le 28 mars. Hama est poursuivi dans une affaire de trafic présumé de bébés. Il a été arrêté en novembre à son retour au pays après 1 an d'exil.
Crise migratoire, les opérations de sauvetage se poursuivent au large de la Libye où 1800 migrants ont été secourus et 2 corps repêchés durant les dernières 24 heures. Lionel Gaïma.
Selon les autorités italiennes, 951 migrants ont été secourus mardi, dont 615 par la marine allemande. Ce matin, un navire de garde-côte italien a secouru environ 750 migrants à bord de 6 embarcations différentes, où se trouvaient aussi 2 corps. On ignore pour le moment la cause de ces 2 décès, mais l'AFP citant la même source souligne les difficultés de la traversée en Méditerranée et la situation déjà précaire dans le dernier pays d'origine, la Libye. Toujours dans le cadre des opérations coordonnées par les Italiens, la marine italienne a annoncé sur Twitter avoir secouru 130 migrants sur un canot ce matin. Cette nouvelle vague de migrants intervient après plusieurs semaines de calme relatif dans le sud de la Méditerranée. Selon les Nations Unies, quelque 9500 migrants sont arrivés par la mer en Italie depuis le début de l'année, tandis que plus de 143 000 ont traversé la mer Égée entre la Turquie et la Grèce.
Toujours sur le continent, l'armée kenyane a affirmé avoir tué dans la nuit d'hier à aujourd'hui 19 islamistes radicaux Shebab qui s'apprêtaient à attaquer un camp de la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, sous sa responsabilité dans le sud somalien. Une information que l'AFP précise n'avoir pas pu vérifier immédiatement. Les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont été chassés de la capitale Mogadiscio en août 2011 par les forces de l'AMISOM. Ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent jusque dans la capitale.
Le Front Polisario a de nouveau réclamé un référendum d'autodétermination aujourd'hui par la voix de l'un de ses dirigeants lors d'une conférence de presse à Alger. Prévu depuis 1992, ce référendum, que le Front Polisario considère comme un prérequis à tout processus de pacification de la région, est sans cesse reporté. Rabat propose depuis 2007 un plan d'autonomie sous sa souveraineté, alors que le Polisario, soutenu par Alger, continue de réclamer une consultation électorale. Les indépendantistes accusent la France de bloquer cette option par son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Début mars, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a effectué une visite dans un camp de réfugiés sahraoui en Algérie, dans l'espoir de faire avancer le règlement de ce conflit qui dure depuis 4 décennies. Nouvelle escalade dans ce dossier, le Maroc a annoncé hier une réduction significative de sa participation à la mission de l'ONU au Sahara occidental.
Au Mali, l'écrivain Ousmane Diarra a confirmé avoir été visé par des menaces de mort dans son pays en raison de ses propos sur la politisation de l'islam. « Je n'ai pas le droit d'avoir peur de dire ce que je pense sur mon pays, ni sur l'islam qui actuellement régente mon pays, même pas le vrai islam, l'islam politisé, instrumentalisé. Je suis menacé, mais je continuerai à me battre », a-t-il insisté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a nommé Merrick Garland pour occuper le 9e siège de la Cour suprême des États-Unis. Mais les républicains qui dominent le Sénat ont promis de s'opposer à sa confirmation. Idriss Fall nous en dit plus.
Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland.
Et aujourd'hui, j'ai nommé le juge Merrick Brian Garland pour rejoindre la Cour suprême, a annoncé Barack Obama devant un parterre d'invités à la Maison-Blanche. Et c'est un juge Garland très ému qui a répondu au président américain.
Thank you, Mr. President.
Merci, Monsieur le Président. C'est le plus grand honneur de ma vie, autre que le fait que pour Lynn d'avoir accepté qu'on se marie il y a 28 ans. Âgé de 63 ans, le juge Garland est très respecté dans la magistrature. Comme procureur, il avait amené devant la justice Timothy McVeigh, auteur des attentats d'Oklahoma City qui avait fait 168 morts en 1995. C'est aussi lui qui a traqué Ted Kaczynski, alias Una Bomber, dont les attentats ont traumatisé l'Amérique. Puis Garland est devenu juge à la Cour d'appel de Washington, où il a été promu juge en chef en 2013. La bataille pour sa confirmation a déjà commencé. Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat, a annoncé la couleur. Il a déclaré qu'il ne s'agit pas d'une question de personne, mais de principe.
Alors que des négociations intersyriennes se déroulent à Genève, l'un des groupes exclus de ces pourparlers, les Kurdes de Syrie, procède à une réorganisation territoriale. Ils se sont réunis aujourd'hui pour étudier la mise en place éventuelle d'un système fédéral dans les régions sous leur contrôle dans le nord syrien. Plus de 150 représentants de partis kurdes, arabes et assyriens prennent part à cette réunion, dont l'issue pourrait être rejetée par la Turquie. Ankara s'oppose en effet à toute initiative qui accroîtrait l'influence kurde à sa frontière avec la Syrie.
La Belgique a décidé de maintenir son niveau d'alerte antiterroriste inchangé à 3 sur une échelle de 4 et correspondant à une menace possible et vraisemblable au lendemain d'une opération de police liée aux attentats de Paris. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Charles Michel. La police belge a dit rechercher activement 2 personnes pour leur implication dans une série de fusillades à Forest, une commune de Bruxelles, dans lesquelles 4 policiers ont été légèrement blessés hier mardi.
Le groupe État islamique continue de perdre du terrain. Selon l'institut spécialisé IHS Jains, basé à Londres, les djihadistes ont perdu depuis le début de l'année 2015 22% du territoire qu'ils contrôlaient en Syrie et en Irak. Cependant, même avec ces pertes, Daesh contrôle encore plus de 73 000 km².
L'armée russe a annoncé qu'elle allait poursuivre ses frappes aériennes contre des objectifs terroristes en Syrie. Cette précision est intervenue Mardi, au lendemain d'une déclaration surprenante du président Vladimir Poutine sur le retrait de Syrie de la majeure partie de ses forces militaires. L'armée russe mène depuis le 30 septembre 2015 une campagne de frappes aériennes en Syrie en soutien aux forces de Bachar el-Assad.
La présidente brésilienne Dilma Rousseff a repris aujourd'hui à Brasilia ses négociations avec son prédécesseur et mentor Luiz Inácio da Silva, alias Lula, en vue de l'intégrer à son gouvernement. Cela aurait pour effet d'aider Dilma Rousseff qui fait face à une grave crise politique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco tout de suite avec Arzuma Compaoré.
Le fromager Bel, numéro 3 mondial, a décidé d'étendre ses activités à Abidjan en Côte d'Ivoire. Entre 4 millions et 5 millions d'euros, c'est le coût d'implantation d'une mini-usine conçue à partir de 14 containers et démontable très rapidement. Cette usine fonctionne à partir de lait importé avec une vingtaine de personnes. Elle a la capacité de produire 100 000 portions de vaches qui rient par jour. Ce site de production est le premier du groupe au sud du Sahara. Flambée des prix au Nigeria, le Bureau national des statistiques affirme que les Nigériens ont payé en février dernier 1,76% de plus sur les biens et services qu'en janvier 2016. Conséquence, l'inflation est passée de 9,6% à 11,4%. Dans son dernier rapport, ce bureau montre que l'indice global a augmenté à un rythme plus rapide de 2,3%, surtout enregistré dans presque tous les grands établissements, à l'exception des restaurants et hôtels. De même, les pommes de terre, l'igname et d'autres tubercules, la confiture, le chocolat ainsi que le sucre ont connu un rythme plus lent. La Réserve fédérale américaine, Fed, devrait laisser les taux d'intérêt inchangés ce mercredi à l'issue d'une réunion monétaire, tout en redisant clairement qu'un relèvement reste d'actualité plus tard dans l'année. En décembre dernier, la Fed avait porté les taux d'intérêt de 0,25% à 0,50% et marqué la fin de 7 années de taux zéro. La Fed doit rendre sa décision à 18h GMT. De nouvelles prévisions économiques seront publiées, ainsi que des projections médianes sur les taux très attendus par les marchés.
C'était la Minute Éco. Merci Arzuma Compaoré.
On fait place maintenant au sport avec Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
La FIFA accuse l'Afrique du Sud de corruption pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde en 2010.
L'instance internationale a publiquement accusé l'Afrique du Sud d'avoir versé 10 millions de dollars de pots de vin. Ces sommes auraient notamment été versées à Jack Warner, ancien vice-président de la FIFA, banni, vous le savez, à vie de toute activité liée au football. La FIFA a aussi saisi la justice américaine pour récupérer des dizaines de millions de dollars auprès de ses anciens dirigeants, poursuivis aux États-Unis et accusés d'avoir détourné au total plus de 200 millions de dollars, selon des documents rendus publics. Au total, ce sont 39 anciens dirigeants du football mondial qui sont visés par cette requête.
Parlons d'Emmanuel Adebayor qui refuse toujours de rejouer pour le Togo, Nicolas.
L'attaquant de Crystal Palace préfère se consacrer à son club et n'affrontera donc pas la Tunisie le 25 mars prochain à Monastir, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ex-capitaine des Éperviers, sans club depuis la fin de son contrat avec Tottenham, en septembre dernier, s'était engagé en janvier avec Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison. Emmanuel Adebayor, vous le savez, a plusieurs fois tourné le dos à l'équipe nationale en dénonçant, je cite, « la pagaille au sein de la fédération ». Sa dernière sélection en équipe nationale remonte en juin 2015 contre le Liberia à Lomé.
Et la Ligue des champions en Europe, la suite des huitièmes de finale ?
Oui, Manchester City s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des champions, 0-0 contre le Dynamo de Kiev. Au match aller, City l'avait emporté 3-1. L'Atlético Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale également, mais que ce fut dur face au PSV Eindhoven. Victoire au tir au but, 8-7, après une double confrontation où aucun but n'a été marqué en 210 minutes de jeu. Une première dans l'histoire de la Ligue des champions.
À suivre ce mercredi.
Le choc tout à l'heure à l'Allianz Arena de Munich. Le Bayern face à la Juventus de Turin. De partout à l'aller entre les deux clubs. Et puis au Camp Nou, le Barça serein. Après son succès 2-0 à Londres contre Arsenal, malgré la victoire à l'aller, Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, refuse de s'enflammer avant ce huitième de finale retour.
Et dans la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Indiana bat Boston 103 à 98. Orlando s'impose devant Denver 116 à 110. Brooklyn écrase Philadelphie 131 à 114. Et puis Milwaukee qui s'incline devant Toronto 89 à 107.
Merci pour les sports, Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Niger, Gabi.
L'opposant Hama Amadou a été évacué ce mercredi vers la France pour les soins médicaux. On sait qu'il est l'adversaire du président Mahamadou Issoufou au second tour de la présidentielle le 20 mars. Il était jusqu'ici en détention en rapport avec une affaire de trafic présumé de bébés. L'opposition n'a cessé de réclamer sa libération pour, dit-elle, battre campagne pour sa participation au second tour. Pour faire le point, Idrissa Seloudia a joint à Niamey notre envoyé spécial Bagassi Koura.
C'est finalement aujourd'hui que Hama Amadou a pu quitter le pays à 15h heure locale. Le ministre de la Justice a indiqué donc que Hama Amadou souffrait d'une amnésie, c'est-à-dire une fatigue générale, une maladie qu'il traîne depuis un peu plus de 3 ans. Donc Hama a pu quitter aujourd'hui. Ce matin, dans certains milieux de l'opposition, les esprits étaient un peu chauffés parce que lorsqu'ils ont appris que Hama Amadou n'avait pas quitté le Niger la nuit dernière.
On parle d'une fatigue qui remonte à 3 ans. Est-ce que son emprisonnement, là, depuis son retour au Niger, n'a rien à voir avec ça?
Il va être difficile de le savoir pour l'instant parce que le gouvernement ne veut pas trop rentrer dans les détails sur sa santé, évoquant bien sûr la confidentialité, ce qu'on peut bien comprendre. Et donc, bien sûr qu'on peut imaginer que si les conditions de détention, dont je n'ai aucune idée, ne sont pas bonnes, ça peut bien sûr jouer sur sa santé. Et donc, Hama Amadou est parti ce soir à Paris pour se faire soigner. On parle de l'hôpital militaire de Paris. Et la question que beaucoup se posent, c'est qu'il est parti en tant que prisonnier. Donc, il va être gardé à l'hôpital là-bas. Il ne bénéficie pas d'une liberté provisoire. Il va être gardé à l'hôpital jusqu'à ce qu'il retrouve de meilleure santé pour revenir ici à la prison à quelques 180 km de Niamey, la capitale.
Bagassi, vous avez parlé d'esprit chauffé. C'est le genre de réaction que vous avez constaté dans le pays?
Oui, surtout dans le milieu de l'opposition. Vous savez que l'opposition ici a décidé de ne pas participer aux élections et son candidat Hama Amadou, dont on parle ici, est le deuxième candidat. Il n'a pas retiré son nom des listes, il n'a pas désisté donc. Et il reste sur la liste, mais l'opposition ne va pas faire campagne. Et le fait que la nouvelle de sa maladie ait été rendue publique et que le gouvernement, jusque-là, avait refusé de réagir, dérangeait beaucoup dans les milieux de l'opposition qui trouvaient qu'il s'agissait quand même d'un acharnement et que n'importe qui, dans ces conditions, même s'il n'était pas nigérien, devrait pouvoir bénéficier de tous les soins nécessaires.
Donc, le deuxième tour aura lieu.
Oui, le deuxième tour est maintenu, il aura lieu, même si à Niamey, ici, on ne sent pas du tout la campagne. Il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de regroupement, il n'y a pas d'animation ici à Niamey. Ce qu'on apprend, c'est que le président Mahamadou Issoufou, qui brigue donc un second mandat, bat campagne dans les provinces du Niger et ne fera pas meeting ici à Niamey.
Notre envoyé spécial à Niamey, Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Horreur dans un hôpital public de la ville de Douala au Cameroun. Une femme éventre une autre, décédée en couche. Elle tentait de sauver les jumeaux de la défunte. C'est en tout cas ce qu'elle a affirmé. Cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux a suscité l'indignation et la colère des Camerounais qui ont assiégé ce centre hospitalier pour crier à la négligence. Une négligence que refute le gouvernement camerounais. Reportage tout de suite de notre correspondante Idé Sandrine Yamga.
Hôpital à Kintini de Douala. Plus de 100 personnes sont massées devant la formation sanitaire. Vêtues de noir, munies de mouchoirs blancs, elles crient et scandent. C'est que ces dizaines d'hommes et femmes s'indignent contre le décès d'une jeune femme dans des circonstances non élucidées. Monique Koumatekel, 31 ans, était enceinte et portait des jumeaux. Les populations sont outrées par les images qu'elles ont vues, celles de la jeune dame couchée à même le sol dans l'enceinte de l'hôpital à Kintini, devant une maternité, en train de se faire éventrer par une proche qui sortait les jumeaux. La conséquence d'une négligence médicale difficile à digérer par des Camerounais qui, à partir des réseaux sociaux, ont assiégé cet hôpital.
Une jeune dame qui perd la vie gratuitement, nous n'admettons pas cela. C'est pour cela que nous nous mobilisons. Nous sommes là pour ça, pour dire que cela ne se répète plus jamais. Plus jamais.
C'est inadmissible. En tant que femme, Je ne peux que décrier ce genre d'attitude parce qu'il s'agit quand même d'un hôpital public.
Nous devons dire non, il y en a marre.
La manifestation a par la suite été dispersée par la police alors que la foule s'interrogeait encore sur ce qui s'est réellement passé. Moukoum Hiller, le compagnon de la défunte, et Maman Beya, sa mère, explique.
D'abord, on est parti à l'urgence. On est comme par la morgue, qui est le mort. On arrive à la morgue, le morgue dit que non, on part à la maternité.
Quand on arrive donc à la maternité, ils nous disent qu'allez à la morgue. Le morgue nous renvoie à la maternité, nous dit que non. Les enfants bougent dans le ventre. Le problème, c'est que, ils disent que non, le médecin est occupé, il est en salle. Ils ont fermé la porte. Nous étions là, une soeur du village. Elle a pris donc la lame. Elle a dit que je ne peux pas sortir que les enfants se meurent. L'âme de la pharmacie, elle a opéré en sortant les enfants. Les enfants étaient déjà partis.
L'affaire prend une tournure. Le gouvernement fait une sortie pour recadrer les choses. Le ministre camerounais de la Santé publique, André Mamafouda, donne sa version des faits et condamne l'acte de la chirurgienne de circonstance.
Comment ils peuvent imaginer que plus de 4 heures de temps après le décès, qu'un fœtus puisse encore être vivant? On ne sait pas ce qui a traversé dans la tête d'une dame qui accompagnait ce couple avec un instrument tranchant. On parle de lame de bistouri qui a décidé d'ouvrir le ventre. Il n'y a pas eu de négligence médicale particulière. Il y a seulement un acte horrible à la fin.
Dame Teke Rose a été interpellée ainsi que le morguier, une infirmière et le médecin. Ils ont été tous gardés à vue. Le gouvernement adresse ses condoléances à la famille éprouvée et dans la foulée, un collectif d'avocats s'est constitué pour soutenir le morguier et la chirurgienne de circonstance Rose qui sont accusés de profanation de corps. Par la suite, les personnes interpellées sont remises en liberté, mais elles comparaîtront libres. Et de Sandrine Yamga, Douala Cameroun, Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Tchad, les autorités assurent tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes à l'origine de la grogne des étudiants tchadiens au pays et à l'étranger. 6 étudiants ont été arrêtés la semaine dernière à Mundu, dans le sud, alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs arriérés de bourse. À Ouagadougou, au Burkina Faso, plus de 300 jeunes tchadiens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement ont été exclus des cours, le Tchad n'ayant pas payé leurs frais d'études. Pour en savoir davantage, Timothée Donangmaï a joint Anne Jamina, Makai Hassan Taïso, ministre tchadien de l'enseignement supérieur.
Au niveau de l'école, il y a eu une très mauvaise gestion de la bourse de ces étudiants à tel point que, suite à une mission que nous avons envoyée, le contrôle que nous avons envoyé, on constate que ces frais ont été gonflés de manière artificielle et la commission a rendu ses conclusions et nous avons donc pris la disposition en vue de notifier donc à l'école le montant exact que nous lui devons, qui est en deçà des chiffres. Nous avons néanmoins écrit à l'école pour lui demander qu'ils ont quand même affaire à un État, à un individu, et par conséquent, ils devraient laisser les étudiants continuer leur cours en attendant que nous puissions donc régler ça naturellement comme nous le faisons dans les années précédentes.
Ces étudiants disent aussi qu'ils ne reçoivent pas leur bourse d'études du Tchad.
Quand je parle justement de la situation générale, il y a la bourse et les frais de scolarité. Et donc, leurs bourses sont comprises dans cette enveloppe globale qui est tenue pour le désir. Et donc, tout était en train d'être fait en vue de pouvoir régulariser cette situation avant le délai.
Au niveau du Tchad également, il y a eu manifestation d'étudiants à Mundu notamment, en rapport avec divers problèmes. Qu'en est-il?
Non, à Mundu, c'est un groupe, un petit groupe d'étudiants qui voulait donc perturber les cours. Les étudiants, ils ont une organisation sociale qui est l'UNET, avec qui nous travaillons de manière étroite. Vous savez, nous sommes en année électorale. Hein, et donc, les agitations sont nombreuses. Vous comprenez facilement que tout est prétexte pour sortir dans la rue. Et donc, certains étudiants, que je ne dis pas tous, certains étudiants qui sont un peu manipulés et servent un peu de retard parfois dans les paiements des bourses pour s'adonner à des comportements qui ne sont pas du tout normaux. Et, dans tous les cas, on aurait compris s'ils agissaient dans un sens strict de leur association, les revendications qui sont académiques. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de revendications qui ne sont pas académiques.
Qu'en est-il du cas des étudiants de la Faculté des sciences de la santé de N'Djamena qui se plaint de retard dans la soutenance des thèses de certains de leurs camarades?
Nous avons été saisis, seulement récemment, par les difficultés que pour l'Université de N'Djamena à pouvoir donc organiser ces soutenances. Et nous avons saisi la hiérarchie en vue de trouver une solution et tout est en bonne voie. Donc, il suffit simplement qu'ils prennent leur mal en patience et qu'ils attendent une solution.
Le ministre tchadien de l'enseignement supérieur, Makai Hassan Taïsso, nous parlait de N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Ici aux États-Unis, c'est donc désormais officiel. La Cour suprême a un 9e juge. Le président Barack Obama a annoncé aujourd'hui son nom. Il s'agit de Merrick Garland, qui remplace le juge conservateur Antonin Scalia, décédé en février dernier. Qui est le juge Garland et comment va réagir l'opposition républicaine? Des questions que Jacques Aristide a posées au docteur Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
Le juge Garland est un ancien assistant au juge William Brennan. C'est très intéressant parce que Brennan était un juge à la Cour suprême appointé par le président Eisenhower pendant les années 50. Et Eisenhower, il a dit qu'il a fait deux erreurs pendant sa présidence. Et puis il a cité que c'était William Brennan qui était un de ses plus grands erreurs. Pendant sa présidence. Donc, je ne sais pas si les républicains vont se souvenir de ça, mais c'est peut-être important. Mais Garland, depuis presque 20 ans, dans la cour d'appel pour la circonscription de la capitale des États-Unis, District of Columbia, il est considéré un modéré, pas vraiment un conservateur, mais non plus un libéral. Donc, ce juge est né à Chicago, il connaît le président depuis longtemps, il a 63 ans.
Les républicains qui dominent le Congrès ont promis de s'opposer à toute nomination qui doit attendre, selon eux, l'arrivée du prochain président en janvier prochain. Il appartient maintenant au Sénat d'approuver ou non le choix du juge Merrick Garland. Faut-il donc s'attendre à un bras de fer entre le président Obama et les républicains ?
La situation qui est difficile pour les républicains, c'est qu'il a écrit des opinions pour la majorité à la Cour d'appel à la District of Columbia et aussi les opinions contre la majorité. Donc il y a un corps d'opinions à laquelle on peut faire référence pour peut-être décider où il est dans cet univers partisan. Et peut-être il est un peu à gauche, mais vraiment pour le président Obama, c'est pas quelqu'un qui est un radical. Et ça, c'est le problème pour les républicains. Donc, ils doivent peut-être rester sur les principes. Donc, il faut attendre l'élection présidentielle pour décider un autre juge. Mais c'est peut-être un cadeau, vraiment, pour les républicains du président, parce que c'est un modéré basé sur ses jugements à la Cour d'appel. Je crois que le président Obama a vraiment tendu un piège pour les républicains qui disent qu'on ne va pas considérer un juge parce que c'est une année électorale. Il faut attendre le nouveau président. Mais le problème pour les républicains en ce moment, c'est que qu'est-ce qu'on va faire si Hillary Clinton gagne la présidence en novembre? La probabilité, c'est que Hillary Clinton va nominer quelqu'un qui est beaucoup plus libéral que ce juge-là.
Donc le juge Garland a été nommé aujourd'hui par le président Barack Obama malgré le refus du Sénat, des républicains au Sénat, d'examiner une telle nomination. Il n'est pas encore juge.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Seigneur, assisté de Jackson Witt à la console. Présentation, Chérubin, Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Vos impressions, vos photos, vos questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin
et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.